Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec Jean-Michel Tombine, Stéphane Casalong et mon compère et ami présent, bien sûr, à chaque fois. C'est Jean-Pierre Fleury. Et aujourd'hui, on va vous parler, c'est un peu rubrique à braque, comme dirait mon ami Jean-Pierre. C'est un fourre-tout, mais qui a trait à quoi? Qui a trait à des questions que vous posez à Jean-Pierre lorsque vous le voyez sur les différents sites où il se déplace pour signer son livre ou s'il est invité quelque part. Eh bien voilà, vous venez lui poser des questions, vous lui montrez des photos. Donc on va répondre à tout cela, comme ça vous serez tranquille et vous serez sûr que eh bien, la réponse a bien été donnée.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Bon, je ne vais plus vous poser la question comment ça va, parce que si ça va, c'est que vous êtes là.
Oui, c'est que je suis allé. Oui.
Eh oui, voilà, c'est ça. Non, sinon, sinon c'est bien.
Et vous, alors, comment ça va?
Alors moi, assis déjà. Assis.
Est-ce que ça va bien?
Oui, toujours. Moi,
mais pourquoi ça va bien?
Pourquoi ça va bien? C'est la bonne question.
Voilà une question. Certaine bonne question.
C'est vrai. Bon, alors pourquoi ça va bien? Je peux vous le dire. Parce que je suis d'abord parce que je suis avec vous et deux parce que je partage. Oui. Nous partageons. Cette passion que nous avons pour l'échange et la connaissance avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, puisque nous avons rencontré, et vous et moi, ces auditeurs fidèles sur nos pérégrinations d'été.
C'est super, ça. Et donc, on va faire un petit peu le courrier des lecteurs.
Voilà. Alors, moi, le premier courrier... Alors, je suppose qu'on a dû vous poser mille fois la question, mais moi, je peux vous la poser, parce que moi, quelqu'un de ma famille, bon, c'est un truc de famille, a eu une peur bleue l'autre jour, guêpe maçonne à la maison. Qui avait fait son nid sous une tenture, et elle m'a dit, papa, bon voilà, on s'est fait.
Papa,
est-ce que ça pique? Et qu'est-ce que c'est qu'une guêpe maçonne? Jean-Pierre, réponse.
Alors, la guêpe maçonne est un hyménoptère, comme les guêpes et les abeilles. Elle a une taille de guêpe, encore plus que les guêpes d'ailleurs, c'est un petit peu à ça qu'on la reconnaît. Elle est quasiment inoffensive. Elle est maçonne, pourquoi? C'est une guêpe solitaire. Alors que les guêpes germaniques et autres sont des animaux qui sont des animaux grégaires, qui construisent non pas des ruches, mais au moins des nids. Ces guêpes maçonnes fabriquent des amphores. Et c'est vraiment des amphores.
Ah oui, carrément.
C'est-à-dire quelque chose qui fait 2 cm et demi de hauteur, un diamètre de 3/4 cm. Et donc, à l'intérieur de ça, c'est fait avec exactement, c'est le même système que les nids d'hirondelles. C'est les hirondelles, on les voit, vont chercher dans leur bec de la terre, la mouille, et font des moellons, font du torchis avec. Donc, à chaque moellon, l'un sur l'autre, ça fait les nids d'hirondelles. Les guêpes maçonnes, les bouchées sont plus petites, donc elles font, je sais pas, plusieurs centaines d'aller et venues, et l'amphore est pratiquement lisse. C'est vraiment très très beau. Et ensuite, cette amphore est operculée. Alors, avant d'operculer, la guêpe maçonne va, et c'est là où on peut la juger qu'elle est sympathique, parce qu'elle va mettre autant que possible des araignées crabes, des tomis, au fond, pour nourrir ensuite la larve. Alors, ces araignées sont capturées, elles sont piquées, mais avec un venin qui ne va pas tuer ces animaux, qui va les garder en léthargie, qui vont être vivants pour ne pas que ça pourrisse. Ensuite, l'opercule est fermé, elle a pondu, les œufs sont censés se développer à l'intérieur de l'amphore, c'est ce qu'elle fait, et ensuite, une fois qu'ils ont éclos, les larves vont se nourrir de ce qu'elle a laissé. Alors, ces petites araignées, là, il faut aussi un petit peu les plaindre, parce que ce qu'on appelle les tomis, c'est ce qu'on appelle aussi, et il y en a beaucoup, c'est parmi les choses qu'on essaye de photographier. Vous savez, c'est celles que vous voyez passer sur le haut de votre ordinateur, par exemple.
Exact.
Moi, j'ai une copine comme ça. C'est ce qu'on appelle l'araignée crabe. C'est tout petit, c'est trop petit pour présenter un quelconque danger. Et l'araignée crabe, parce qu'elle est très trapue de devant, si vous voulez. Et donc, ces malheureuses tomises sont mises au fond, en attente d'être mangées. Mais, vous voyez la petite porc que le méchant Ichemon. Est-ce que vous connaissez les Ichemons?
Ah non.
Les Ichemons, ça ressemble aussi d'ailleurs à. Je pense que c'est aussi un hyménoptère. On a l'impression que le thorax est complètement séparé de l'abdomen. On parlait de la taille de guêpe tout à l'heure. La taille de guêpe, il y a une sorte de petit rameau, comme un brindille d'herbe rond, qui fait environ 1 cm et qui sépare, ça fait en tout 4 cm et demi, et les deux parties du corps sont complètement séparées par ça. Et en plus, il y a une tarière, encore une. Hein. Donc on a l'impression que c'est fait pour piquer, c'est pas un dard. Mais cette tarière, donc, elle va forer l'opercule dont j'ai parlé tout à l'heure. De cette tarière, au bout de cette tarière, va sortir des œufs qui vont être pondus dans les larves de la...
Ouais.
La guêpe maçonne. Et donc, qui va se nourrir donc, des larves de la guêpe maçonne qui elles-mêmes se seront nourries des tomises.
Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est en présence, Jean-Pierre, de ces cocons de guêpe maçonne? Qu'est-ce qu'on fait? On les casse, on les déplace, on les décolle, on les met dehors?
Bon, soit on y touche, et à ce moment-là, bon, effectivement, on peut même les mettre. Il n'y a aucun risque, hein, si ça gêne. Alors, la seule gêne qui y est, c'est qu'on entend.
Hein,
on l'entend ventiler, on l'entend. C'est très bruyant. Mais autrement, c'est la seule nuisance. Moi, j'ai retrouvé des nids des années précédentes. C'est tout sec. Le monde s'est fait comme ça. Ça n'a jamais piqué quelqu'un, quoi.
Bon.
Donc, voilà, il faut le laisser tranquille. Sachant quand même que, alors, papa, à quoi ça sert? Vous pourrez répondre ça à votre petite. Bah, ça sert, ça mange des araignées. Hein. Donc au moins là.
Exact. Et c'est pour ça qu'elles sont bien présentes dans cette région qui est la région de Bigouille, où il y a beaucoup d'araignées d'ailleurs dans les maisons, où on enlève le soir.
C'est les toutes petites araignées.
Et voilà, c'est ça. Ouais. Ben voilà, elles ont trouvé le coin, elles ne sont pas idiotes. Ouais. Elles ne sont pas idiotes, donc elles viennent se nourrir. Ouais. Quoi. Alors là, nous avons battu en brèche le risque de la guêpe maçonne qui ne pique pas.
La guêpe maçonne, et sachant que c'est quand même assez étonnant aussi, on peut récupérer les petites amphores. À la limite, vous les mettez à. Il suffirait de les passer au four pour faire, pourquoi pas, des objets pour faire des bijoux nustrales. Hein,
Il
faudrait les faire cuire. Ah, c'est des vraies œuvres d'art. Hein, c'est vraiment très, très bien foutu.
J'en ai vu, mais c'était en Afrique. Hein, c'était dans une autre vie. J'en ai vu en forme de tuyau d'orgue. Tout en long, comme ça. On aurait dit des orgues, mais c'était pas du tout que celles qu'on avait ici.
Alors, c'était au sol?
Oui.
Alors, c'était très souvent des vers. Des énormes vers qui font ce qu'on appelle la servane verniculaire, qui était donc pendant la saison des pluies, toute la terre est molle et c'est l'équivalent de taupinière, si vous voulez. Donc il y a des vers, c'est un petit peu la même chose que quand on va sur la grève et qu'on voit ce qui est laissé par les vers de vase, vous savez, les arénicoles. On voit des espèces de serpentins qui sont faits, et là, au lieu que ce soit des serpentins, c'est le travail de certains vers qui sont dans le sol de la savane.
Mais cela dit, Jean-Pierre, c'était probablement ces tuyaux-là étaient inhabités et on a vu, nous, les guêpes maçonnes rentrer dedans. Donc peut-être que.
D'accord, ils ont dû s'en servir après.
Peut-être.
Oui, oui. Oui, il y a aussi les écrevisses de Louisiane. Ont l'habitude de faire une sorte de taupinière, font des galeries, et elles dégagent le déblai des galeries en faisant des tuyaux comme ça. Mais ça, c'est plutôt en Louisiane, bien sûr.
Alors, il y a aussi, pour répondre à nos amis auditeurs qui vous sollicitent de plus en plus...
Vous aussi.
Oui, mais moi, je me rabats sur vous. Hein. Oui. Elle est belle, la vie. Et qui vous amène, oui, qui vous disent, par exemple, « Ah, j'ai vu un oiseau de telle sorte, ou j'ai vu... » Alors ça, c'est le problème, c'est que bon, ben il y a pas la photo souvent, il y a la description, mais c'est pas suffisant, Jean-Pierre.
C'est pas suffisant. Alors la première question, vous avez vu un oiseau? Est-ce qu'il vole le bec en avant? Les gens répondent oui, mais une fois qu'on en est là, non, c'est très difficile parce que il y a beaucoup de préjugés. J'essaye de dire, les gens m'ont dit j'ai vu une pie. Je dis non, il n'y a pas de pie en Corse. Bon, alors peut-être qu'il y en a une de temps en temps, mais c'est des gens qui sont pas vraiment capables d'identifier, qui vont vous dire j'ai vu ça, ça s'appelle comme ça parce que un berger m'a dit que ça s'appelait comme ça. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir établir la vérité. Alors la vérité, en plus, moi j'ai pas la science infuse, c'est extrêmement difficile sur une mauvaise photo dire c'est ça ou ça. Ensuite, il y a des critères quand même. Il y a la saison. Hein, ça, vous l'avez vu quand? Vous l'avez vu à quelle heure? Vous l'avez vu où? Est-ce que l'oiseau s'est posé? Est-ce qu'il était uniquement à terre? Est-ce qu'il chantait? Une idée de la taille? Là, on arrive à peu près à pouvoir serrer. Mais c'est vraiment pas une science exacte.
Alors, il y a aussi des questions qui ont été posées, parce que les personnes nous suivent, bien sûr, de manière assidue. Nous avions évoqué, il y a quelque temps, m'a-t-on dit, et ils ont probablement raison, parce qu'ils ont toujours raison.
Oui, il y en a qui écoutent. Hein.
Ah bah oui, il y en a quelques-uns, oui. Ouais. Oui, avec Jean-Pierre, vous aviez parlé d'oiseaux qui ne se posaient jamais. Est-ce qu'on a évoqué ça?
Bah, bien sûr, cher monsieur. Les martinets, par
exemple. Ah, voilà, c'était ça.
Ah, voilà. Alors, les martinets, pourquoi ne se posent-ils jamais? On va rappeler que ce qu'est un martinet, c'est un oiseau migrateur. Premier arrivé, premier parti. Hein, ils arrivent vers le mois de mai et sont repartis au mois d'août. Hein. Pendant ce temps-là, ils viennent se reproduire. On sait, tout le monde sait, que lorsqu'un martinet est à terre, il ne peut plus marcher. Il ne peut pas s'envoler. Il a du mal à marcher aussi parce que ses ailes sont trop longues. Ce merveilleux volier, etc., le géant des mers, c'est pas un albatros, mais il est fait pour voler uniquement. À tel point que les anciens l'ont caricaturé en l'appelant Apus. Alors je répète toujours ma vanne préférée, Apus, ça veut pas dire qu'il est plein de puces, ça veut dire qu'il est A privatif, puce le pied. Et donc on l'a caricaturé en disant qu'il n'avait pas de pied, qu'il n'avait pas de jambes. Alors que se passe-t-il? Pourquoi ne fait-il tout en l'air? Parce que l'adaptation est ainsi, donc il va effectivement construire un nid qui va être le plus haut possible, hein, pour pouvoir justement après sauter du nid.
Prendre son envol.
Prendre son envol, son essor, voilà, un beau mot qui est lié complètement aux oiseaux. Et donc il va y avoir environ trois œufs de pondus. Pendant 3 semaines, une activité absolument frénétique de la part des parents, qui vont amener environ 10 000 moucherons par jour, moucherons, moustiques et autres, petites proies par jour, pendant ces 3 semaines, ce qui fait que le petit va être littéralement gavé et va faire 3 fois le poids de ses parents au moment où il va s'envoler. Alors on pourrait penser que tout ça est bien mal fait, mais au contraire, c'est parce que ce petit va s'envoler du haut de son nid là-haut, hein, et donc ça, c'est quand même un voyage assez étonnant, puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour se casser la figure.
Puis il a le poids aussi.
Surtout pas. Il y a le poids, mais alors justement, c'est difficile de décoller en charge, mais c'est absolument nécessaire, parce que ce petit va bien sûr, pour la plupart du temps, réussir son envol, mais ne va se poser que 2 ans plus tard. Donc il y a intérêt à ce qu'il y ait du carburant là-dedans, que les réserves soient pleines. Et ensuite, pendant les 2 ans, il va tout faire en l'air. C'est-à-dire qu'il va bien sûr migrer en l'air, ça c'est évident.
Il fait crac-crac en l'air aussi.
Et il fait crac, il s'envoie en l'air, oui monsieur.
D'accord, bravo. Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose et il meurt.
Il se pose et il fait des petits.
Ah d'accord.
C'est Et après, il repart, mais la durée de vie n'est pas très très longue. Et hélas, maintenant, on ne va pas jouer les troubles faits. Mais il y a de moins en moins de ces martinets, puisqu'ils mangent des insectes qui sont de plus en plus rares. Et ceux qui survivent sont de plus en plus chargés en doses infinitésimales d'insecticides et autres, et ce qui fait qu'ils ont des œufs qui sont clairs et autres. Donc ça va très très mal chez les martinets.
Sacré glyphosate. On va écouter Diana Zaligel, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup.
Oui, c'est beaucoup.
Nous, on l'adore aussi, c'est plus gai, puis la voix est délicieuse. Ouais. Elle nous chante Mo Baez, et on se retrouve avec Jean-Pierre pour parler donc de ces petits animaux qui sont très utiles d'ailleurs.
Mobaezezi tu, amo speranza più scema, agarta yanka chi darà cura da, mobaeze si tu, amo speranza si tu, immensità di ugelu, stella incesa ed arriverà. Mo baese si tu, si tu amore bulezza, forza iutra pama, ma frontiere so tutta casca, mo baese si tu, ma frontiere so tutta casca. Sei tu, amo Italia, amo vera, terra immensa ed agarizza, un mio paese, sei tu, משתגעת וסי גלמה ובבא איזה זיתו סיתו עמובור תרצה קסטלו אגום פיסטה דיו דופת ומיוולינה מורה ובבא איזה זיתו דיו דופת ומיוולינה מורה ובבא איזה זיתו
Naturellement vôtre. En rediffusion le mercredi à 21h.
Et nous sommes avec Jean-Pierre Fleury de son nom. Alors on a parlé bien sûr de la guêpe-passeuse parce que vous avez posé plein de questions. On a parlé de la pie, mais j'aimerais revenir là-dessus avec vous. Et puis on parlera bien sûr du frelon. Alors la pie, est-ce qu'on ne confond pas, nous en Corse, et c'est les personnes qui posent la question, la pie et la corneille?
Alors on confond parce que comme il n'y a pas de pie, hein, sauf accident qui dure pas longtemps, on va dire pourquoi, on confond avec la corneille qui n'est pas noire ici, qui est mantelée.
Eh oui.
Donc ça donne un corvidé qui paraît être noir et blanc, bien que le blanc de la corneille mantelée soit plutôt un beige sale.
Oui, gris, quoi.
Mais il y a confusion à cause de ça. Le cri peut être le même, etc. Alors là, je vous entends poser la question, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de pie?
Et voilà.
Là, je réponds, j'en sais rien. Par contre, je peux vous dire pourquoi... maintenant, le fait qu'il y ait une pie ou deux qui embarquent de temps en temps à bord d'un ferry n'est pas suffisant, parce que justement, quand elles arrivent à la fin de la traversée, si elles décollent pour aller vers la Corse, elles sont reçues par les corneilles. Et ça va pas ensemble.
Et elles défendent leur territoire.
Elles défendent leur territoire et tuent les pies, quoi. S'il y a une pie qui s'aventure, c'est fora.
Alors, voilà la réponse. Et donc, ne confondez pas les pies donc, et les corneilles. Tiens, corneilles qu'on mangeait pendant la guerre, paraît-il. Il y a eu du ragoût de corneilles. Bonjour, la parenthèse.
Évidemment, les petites corneilles se sont mangées de tout temps. C'est une petite corneille prise au nid. C'est pas. Si les oignons sont bons. Si les pommes de terre sont bonnes, les tomates et autres, ça fait un bon ragoût. Hein.
Voilà, donc oignon de cisque, oignon de mouille, vous le savez. Oui, alors, Jean-Pierre, le fameux frelon. Le frelon, il fait peur à tout le monde, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir confusion entre les frelons.
Bien sûr, alors, bon, déjà, il y a deux, en gros, hein, frelons, hyménoptères. On peut confondre les frelons avec les guêpes, puisque c'est tous les deux des Vespa. Alors c'est assez marrant. Hein.
Ah oui, Vespa vient de là, ça vient de là. Hein. Non.
Oui, bien sûr, oui. Et donc, il y a le Vespa crabeau, qui est le frelon européen, et l'autre qui s'appelle Vespa velutina, qui est le frelon asiatique. Et il y a Vespa, je crois, pas me tromper, qui est la guêpe. Parce qu'une guêpe, telle qu'on les connaît, c'est simplement un frelon en miniature. C'est un frelon divisé par trois. Hein. C'est pas la même espèce. La guêpe n'est pas le petit du frelon, on est bien d'accord. Mais c'est exactement, ça fonctionne à peu près de la même façon. C'est-à-dire que ce sont des insectes, sauf la guêpe maçonne, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a une infinité aussi, on parlera tout à l'heure, d'une des vedettes aussi de l'été, c'est l'abeille charpentière.
L'abeille charpentière, oui.
Les frelons sont des insectes sociaux, donc qui vivent en groupe. Alors, on va rassurer tout le monde. Et on va insister là-dessus. Et après, je ne veux plus en entendre parler. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas de frelons asiatiques en Corse.
Et pourtant, c'est pas ce que nous disent les apiculteurs.
Je me suis renseigné auprès du des services vétérinaires, où j'étais reçu d'ailleurs de manière très très gentille, de départementaux. Mmh. Il n'y a pas de frelons asiatiques en Corse. Les gens ont été dérangés une ou deux fois, de temps en temps, parce que justement il y a des confusions, mais il n'y a pas de présence avérée de frelons asiatiques en Corse. Donc pas de panique.
C'est une bonne nouvelle, non ? Parce que
c'est une bonne nouvelle.
J'en avais entendu parler plus ou moins par des apiculteurs qui étaient des apiculteurs pas professionnels, qui m'ont dit on a la peur du frelon. En frelons asiatiques, parce qu'ils s'y rendent dans la rue, ils ruinent tout.
Mais il y en a autant. On peut avoir aussi peur du frelon européen quand il rentre dans la ruche. Alors, je vais vous expliquer un peu la différence et comment on peut les reconnaître. Le frelon européen, en gros, c'est une guêpe multipliée par 3. C'est-à-dire une alternance sur l'abdomen de bandes jaunes et de bandes noires. Hein. Mm-hmm. Une tête plus ou moins jaune aussi. La taille du frelon européen est légèrement supérieure. Voilà aussi quelque chose qui donne une claque aux idées reçues, légèrement supérieure à la taille de frelon asiatique. C'est-à-dire que, à l'inverse, le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen. Donc c'est pas parce qu'on a vu un gros frelon qu'il est asiatique. La taille d'un frelon européen, elle est 2 cm pour une petite femelle, 3 cm pour un gros mâle.
C'est pas mal, quand même, hein.
Oui, c'est pas mal, ça fait déjà un sacré bombardier, un sacré chasseur. Alors, où ça change complètement, c'est les colonies. Les colonies de frelons européens, c'est maximum entre 2000 et 3000 individus. C'est déjà trop, hein, d'accord. Mais les colonies de frelons asiatiques, c'est entre 15 000 et 20 000
individus. Ah oui, c'est pas la même, quoi.
C'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Les frelons européens font des nids qui ont la taille d'un ballon de football. Les frelons asiatiques font des nids qui sont des sphères. Tout ça, c'est du papier mâché. On pourra raconter comment ils font. Des sphères qui font un mètre de diamètre, jusqu'à un mètre de diamètre, qu'on voit, qui sont parfaitement visibles dans le haut des arbres. Alors qu'en général, les frelons européens, c'est plutôt sous les charpentes. Enfin, c'est assez souvent, la mauvaise idée, c'est que c'est assez souvent pas trop loin des hommes. Les autres aussi, d'ailleurs. Enfin, il y a un historique de la venue des frelons asiatiques sur le territoire européen. Mmh. On a pratiquement le visa d'entrée des premiers, c'était en 2004. Ça aurait été dans des poteries chinoises importées par le port de Bordeaux. 2005, il y a les premiers signalements en Dordogne. L'expansion a été très très vite. 2006, plusieurs nids en Gironde. 2007, 2000 nids dans cette région-là. Et depuis, ça s'est éparpillé un petit peu partout, puisqu'il n'y a que 10 départements en France où il n'y ait pas de frelons asiatiques, dans lesquels je me permets d'inclure les deux départements corses.
Alors, ce qu'il faut préciser à nos amis qui nous écoutent aujourd'hui, Jean-Pierre, c'est que s'il y a un nid de frelons, ça existe, hein, notamment dans les cheminées, lorsqu'elles sont pas ramonées et tout ça, appelez tout de suite des services spécialisés. Alors, les pompiers ne les font plus. Cela dit, il y a des services spécialisés qui peuvent les faire. Il
faut les tuer. Alors, on va voir. Bon, déjà, moi, je vis parmi les frelons. J'ai jamais été piqué. Parce que je vais pas les attaquer.
Oui,
les frelons européens sont des gros pépères débonnaires. Vous leur foutez la paix, ils vont pas venir vous chercher des noises. Par contre, ils peuvent vous piquer, on reviendra là-dessus. S'ils vous piquent, ça fait bobo. Hein,
oui.
Une des grandes différences avec les frelons asiatiques, c'est que si vous allez par inadvertance, vous foutez un nid en l'air, par exemple, hein, vous ouvrez une porte, paf, ça tombe d'un endroit où vous n'avez pas été depuis longtemps, les frelons européens vont se ruer sur vous, mais de manière infiniment moins violente et infiniment moins nombreuse. Donc vous avez une forte chance, si vous courez un petit peu vite, de trouver un endroit de vous en sortir. Par contre, les frelons asiatiques, ils peuvent attaquer, il peut y en avoir 5000 qui se ruent sur vous.
Oui, c'est un
moment. Et au lieu de vous poursuivre sur 20 ou 30 mètres, eux, c'est sur 200 mètres.
Et puis c'est déjà beaucoup plus difficile. Et puis c'est la mort rassurée, Jean-Pierre.
Il y a des gens qui se sont fait piquer, qui s'en sont sortis parce qu'ils étaient en bonne santé, parce qu'ils n'ont pas eu de choc anaphylactique, etc. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est des vrais brutes, ces frelons asiatiques, puisqu'ils attaquent en percutant. Hein. Et ils sont capables de percer un tissu. Enfin, vous avez un pull, une veste par-dessus. Un centimètre de tissu, il passe au travers. Donc, c'est des engeances, encore une fois, qu'on n'a pas ici. Alors, par contre, le frelon européen, on va regarder, c'est des chasseurs extraordinaires. Hélas, les apiculteurs le savent.
Eh oui.
Moi, il m'est arrivé d'être apiculteur. J'avais des ruches pendant un moment. Et lorsqu'on nettoyait les outils, je ne voulais pas nettoyer à l'eau. Je laissais les outils qui m'avaient servi quand on faisait le miel. Je laissais les outils dehors pour que les abeilles reprennent directement. Et c'était la foire ouverte. Il y avait tous les frelons du pays qui arrivaient. Mmh. Et on les voyait chasser comme des éperviers. C'est-à-dire qu'ils attrapaient les abeilles en vol, les décapitaient et les amenaient quelque part pour les manger. Donc, c'est des sacrés prédateurs. Alors, comment font-ils? Ils se servent de leur dard, bien sûr.
Alors, c'est quoi la différence entre une guêpe et un frelon, Jean-Pierre? À l'œil nu, ça se voit quand même.
La taille.
C'est essentiellement la taille, c'est ça.
C'est uniquement la taille, parce que après, ça vit à peu près de la même façon. C'est-à-dire que les frelons, on les voit souvent dans les arbres, et les guêpes aussi. Les guêpes beaucoup moins, parce que, bien sûr, les frelons, ils adorent la viande, mais ils adorent aussi, et là, attention au danger. C'est-à-dire, là, maintenant, quand les fruits sont mûrs, vous avez un fruit qui est en apparence intact, et à l'intérieur, il y a un frelon qui est en train de se torturer. Ouais. Alors, si vous mangez ça, là, il risque d'y avoir bobo. Donc, il faut faire très, très des attentions que le fruit soit sur l'arbre ou qu'il soit par terre.
Ouais, il faut aller
les abeilles, les frelons vont sur les arbres aussi pour récolter des fragments de bois pour en faire du papier mâché.
Et parce qu'il faut leur nid avec, c'est ça?
Ils font leur nid avec, c'est complètement étonnant. Ça ressemble, que ce soit d'ailleurs les Asiatiques ou les Européens, vous savez, ça ressemble à ces lanternes qu'on vend au Vietnam
exact.
Ou en Chine. Ça ressemble à ça, c'est très très bien fait. Donc, ils sont. Alors, en plus, c'est pas, le frelon n'est pas un fainéant, puisqu'il se lève très tôt. Et quand la nuit est largement fermée, ils sont encore dehors. Ça veut dire aussi que si vous les trucidez. Un nid de frelon, vous savez, quand il y a dans un trou de mortaise, vous les voyez rentrer, etc.
Ouais, ouais.
Il faut attendre quasiment minuit pour mettre ça dedans. Autrement, il y a tous ceux qui sont restés dehors, qui vont émettre et transmettre quelques phéromones aux autres, et il va y avoir de la colère après, de la vengeance.
Et dites-moi, question subsidiaire, mon cher Jean-Pierre, ces frelons et ces guêpes, est-ce qu'elles hibernent, ou est-ce qu'elles ont une durée de vie très courte?
Alors, fort heureusement, si j'ose dire, mais pauvres bêtes, elles ont une durée de vie très courte. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui est un cycle annuel. Là, d'ailleurs, au mois de... Le moment où il y en a le plus, c'est septembre-octobre. Alors, quel est le cycle? La poule ou l'œuf? Il y a un accouplement qui se fait là, maintenant. Enfin, maintenant, en septembre, comme je l'évoquais. Un accouplement, il y a une fécondation. Il va y avoir des naissances qui vont se faire, mais la plupart des animaux vont mourir dans les semaines qui viennent. Ne va rester qu'une reine dans un endroit, justement dans le nid, qu'une reine et quelques ouvrières à son service. L'ensemble, 80% au moins de la colonie, va mourir. Il va y avoir un temps où ils passent l'hiver sur des réserves, effectivement. Et au moment du printemps, la colonie qui fera 2000 individus au mois de septembre va naître à partir d'eux qui étaient disposés dans des alvéoles et autres. C'est la même chose pour les frelons, les guêpes et les frelons.
La même chose. C'est étonnant parce que, en fonction que la guêpe soit femelle et non pas stérile, elle vit à peu près, je sais pas, un an, ce que vous disiez. Si elles sont ouvrières, alors là, c'est maxi 22 jours. Et puis, alors par contre, les mâles, chez les guêpes, alors eux, c'est pas longtemps, quoi.
C'est pas longtemps, mais chez la plupart des hyménoptères, c'est comme ça.
C'est la même chose. Hein.
Les abeilles aussi. Un apiculteur réunionnais me disait que les abeilles avaient un cinquième, sixième ou dixième sens, et qu'elles sentaient venir les ouragans qui sont courants là-bas, les cyclones, et qu'ils s'apercevaient que les apiculteurs qu'il allait y avoir quelque chose de mal, parce que les faux bourdons qui pouvaient rester étaient virés systématiquement 24 heures avant l'arrivée du cyclone.
D'accord. Et dites-moi, est-il vrai que la guêpe, quand elle pique, elle meurt? Une fois qu'elle a planté son dard,
non.
Elle repousse, ça repousse.
La guêpe et le frelon ne meurent pas, le dard reste.
Mais ouais.
C'est la grande différence avec la pauvre abeille, qui sacrifie son dard avec sa poche à venin, entre guillemets.
Et là, elle meurt.
C'est
après.
Comme ça qu'on reconnaît. Si vous avez une piqûre et qu'il reste le dard, c'est une abeille. Si vous avez une piqûre et qu'il y a juste la marque de la piqûre, c'est à 99%, soit une guêpe, soit, suivant l'intensité de la douleur, un frelon. On rappelle que bien sûr, il faut, si c'est un frelon, il vaut mieux directement aller
voir la pharmacie.
Non, directement l'urgence.
L'urgence.
Parce qu'il y a un problème anaphylactique, etc. Surtout pas prendre un tas de médications, parce que c'est ça qui peut justement provoquer une allergie. Mais il y a quand même le fait que le venin, en tout cas de la guêpe et celui du frelon, sont thermolabiles. Pour la guêpe, c'est extrêmement efficace. Lorsque vous êtes piqué quelque part, il y a toujours, hélas, quelqu'un autour de vous qui est capable d'allumer une cigarette et d'approcher le bout rouge de la cigarette sur la piqûre.
Oui,
bien sûr, pas faire cramer tout ça,
ben
mais ça fait disparaître le venin.
Voilà, sinon, il y a les aspi-venins qu'on trouve dans les pharmacies.
Autant. Si vous avez une flûte, ça fait à peu près la même chose.
Oui, mais en fait, ça peut rassurer, puis ça peut faire.
Oui, moi, ça sert à rien.
Ça sert à rien. Bon, on va écouter de nouveau une chanson. C'est une chanson d'amour parce que j'aime bien.
Toi que j'aime, pardonnez-moi, ma belle amie. Je ne sais pas t'écrire de poème. Avoue que j'aime à la folie. Je ne tutoie que tes dentelles. Avoue, je donne mon parapluie. Je suis à toi comme l'hirondelle. Vous reviens toujours dans son. Jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour, à vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour. Qu'à toi qui savais me dire je vous aime en chantant de la même voix, à vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au en fil de laine. Je ne vois que vous quand tu danses, comme Ulysse retrouvant Hélène. À vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour. À vous jusqu'à la fin du monde, à toi depuis le premier jour, à vous jusqu'au bout de la ronde, à toi mon dernier mot d'amour.
À vous jusqu'à la fin du monde, c'était Julien Clerc.
Naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
Et on répond à vos questions. Lorsque vous avez rencontré Jean-Pierre, qui a parcouru la Corse du nord au sud, de l'est à l'ouest.
Fait une tournée de médiatique.
Médiatique complète. Hein.
Triomphale.
Voilà,
c'est pas fini d'ailleurs.
Non, c'est pas fini, ça va continuer. Puis il y en aura encore une qui va dire l'année prochaine quand on lit sur les poissons va sortir. Alors, revenons sur les.
Les questions qu'on nous pose.
Voilà,
Il y a un petit best-seller. Il y a une araignée.
Qui fait un
tabac. C'est une araignée assez grosse, même grosse. Pattes écartées, elle peut faire 6-7 cm. Donc elle interpelle, elle impressionne. Toile verticale et un corps ressemblant au frelon, justement. Ah. Il s'agit de l'Argiope frelon, que tout le monde a vu, tout le monde en a eu peur. C'est plus de la famille, c'est pas loin des tégénaires. Vous savez, c'est ces araignées qu'on trouve dans les baignoires, là, qui sont dans les maisons totalement inoffensives. Celles-là, bon, elles sont inoffensives. Bon, bien sûr, elles ont du venin, elles font leur boulot, mais elles rentrent pas dans les maisons. Donc, elles sont camouflées en frelons. Hein. Elles ont l'abdomen, on dirait un frelon. Donc, ça leur permet de ne pas être mangées par les prédateurs. Le fait de se déguiser en frelon, c'est un petit peu une manie qu'ont beaucoup d'insectes, même certaines plantes, certaines fleurs. Il y a des orchis qui sont camouflées en abeilles ou en frelons. Et donc, mais en même temps, si elles ont uniquement l'aspect des frelons, c'est embêtant pour faire le boulot de prédateur. Donc cette Argiope frelon, ou Argiope soyeux aussi, je crois qu'il y a deux espèces extrêmement voisines, elles ont certaines soies qui sont plus épaisses, et qui, derrière laquelle elles sont, et qui rendent la vision un petit peu pas nette, si vous voulez, comme si vous aviez du mal à trouver le point.
Mais est-ce qui veut dire que le frelon n'est pas son prédateur, quoi, du coup?
Non, justement, ça permet mais ça évite aussi d'être mangé par un tas de prédateurs qui mangent les araignées, parce qu'il y en a quand même beaucoup.
Les
hérissons, les couleuvres et tout ce qu'on veut. Hein. Alors, on la voit, elle est au milieu de sa toile, la tête en bas. Et avec un truc étonnant, aussi pour se planquer, pour ne pas montrer qu'elle est une araignée, araignée 8 pattes, le frelon en 6, elle a pris une solution faire semblant d'avoir 4 pattes. C'est-à-dire qu'elle se cache les deux pattes collées à l'une.
Ah oui, on a l'impression qu'elles sont doublées. Exact.
Oui, on a l'impression qu'elles ont 4 pattes.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est assez joli, elles sont jolies en plus. Hein.
Ah oui. Alors le mâle est beaucoup plus petit, hein. À chaque fois d'ailleurs il se fait bouffer. Il a un grand sens du sacrifice, mais en même temps, il est un peu vétilleux parce que ils se disent c'est moi qu'elle va manger, donc les autres mâles, il n'est pas question ensuite qu'ils puissent y passer. Ils ont l'habitude de casser à l'intérieur de la femelle leur organe sexuel. Une fois que c'est fait, c'est cassé, ça obstrue, donc ils sont sûrs que personne d'autre va passer derrière.
Original. Alors, l'espèce, on la trouve chez nous, mais il y en a ailleurs aussi. Hein. Vous m'avez interpellé. J'ai vu qu'il y en a au Japon, en Scandinavie.
Bien sûr. On a dans les voisins, et presque ça sonne de la même façon, l'argironnette. L'argironnette, c'est très joli. C'est ce qu'on appelle l'araignée d'eau. Enfin, c'est une araignée d'eau. C'est pas l'araignée d'eau, c'est encore différent, l'araignée d'eau. Et cette argironnette, c'est une plongeuse. C'est-à-dire qu'elle vit dans une bulle d'air qu'elle immerge. Elle fabrique une bulle dans laquelle elle vit. Hein, elle vit dans une cloche. Donc elle remonte. La cloche étant en contact, elle va de temps en temps à la surface chercher des bulles d'air pour compléter son domaine, pour pouvoir y respirer, prendre l'oxygène, parce qu'elle a besoin de l'oxygène. Et donc elle vit complètement comme ça.
Elles sont immergées.
Ouais, c'est une surprise pour les petits alevins, pour les larves qui passent à côté, parce que d'un seul coup, sous l'eau, il y a une araignée.
C'est curieux, voilà. Ça. Qu'elle soit retournée complètement à la vie aquatique. Elles sont pas. Alors Jean-Pierre, juste une question.
Oui.
Est-ce qu'elles sont dans les mares ou elles sont par exemple le long des rivières qui courent? Non,
c'est dans les mares. Voilà. Il faut que l'eau soit
stagnante.
Soit stagnante. Enfin, il faut pas que ça court justement, parce qu'autrement, ça partirait au fil de l'eau.
Alors, une question que j'aimerais vous poser, parce que je sais qu'on vous l'a posée. Oui. Et moi, je le trouve magnifique. Hein, donc, bon, après, on aime ou on n'aime pas. C'est le fameux sphinx à tête de bord.
Ah oui.
Ça, on est venu vous voir. Hein.
Ah oui. Alors, complètement. C'est quelque chose de très étonnant, ce sphinx. Bon, il a une tête de mort. Alors, les gens disent que c'est pour faire peur aux prédateurs. Non. Parce que pourquoi voulez-vous qu'un hérisson, voyant une tête de mort comme ça, ait peur? Ça ne va rien lui rappeler du tout. C'est juste un hasard de la nature. Alors ça, c'est effectivement, comme c'est pratiquement le plus grand papillon qu'on puisse trouver sous nous latitude, papillon de nuit, je le rappelle, ça peut interpeller quand même. Hein. Il est les chenilles, par exemple. Enfin, ces fondes sont immenses. Hein, ça peut faire 15 cm. C'est jaune et vert, blanc et marron. C'est très très beau une chenille de sphinx.
J'ai vu le sphinx, mais pas les chenilles.
C'est un migrateur. C'est-à-dire qu'il arrive fin juin. C'est ça. Là, c'est complètement étonnant hein, de penser que des papillons peuvent migrer. Hein, mais ils viennent pas d'à côté. Ils viennent d'Afrique. Hein.
Ah oui.
Il a une autre particularité, alors on va revenir là-dessus parce qu'on va parler, si vous voulez, tout à l'heure des cigales et des grillons, mais c'est un insecte qui émet des sons, mais non pas en stridulant, non pas en tapant, mais à partir de la gorge. Hein. C'est assez étonnant. Il est aussi capable, alors, de se servir de ses ailes pour faire du bruit. Mmh. Il les fait vrombir pour éloigner les prédateurs. Donc, on parlait tout à l'heure des guêpes.
D'accord. En tout cas, il est très très beau. Et pour ceux qui n'en ont jamais vu, si vous avez vu le film Le silence des agneaux avec Anthony Hopkins et Jodie Foster, eh bien, il y est. Il est présent, cette espèce-là de sphinx à tête de mort. C'est M-O-R-T, hein, pas mort, M-A-U-R-E.
Oui, tout à fait. Non, c'est voilà. pas la bandera.
Voilà, pas du tout.
Alors, les succès, là.
Oui, alors allez-y, les succès.
On nous pose souvent la question, rapidement. On me dit, j'ai vu un gros bourdon violet.
Un bourdon violet. Ouais. Pourquoi pas?
Bourdon, parce que les gens, bon, c'est pas si mal vu que ça. D'ailleurs, on l'appelle aussi le bourdon violet. C'est en réalité une abeille charpentière. C'est un gros pépère, une grosse mémère, qui apparaît relativement tôt vers le printemps et qui, effectivement, va butiner pratiquement en compagnie des papillons. Quoi. Donc, c'est gros, hein, c'est velu, c'est dodu. Et ça prend des merveilleux reflets violets.
Alors, violet ou bleu, Jean-Pierre? Parce que là, je vois des
bleu,
photos
violet, violet hein, c'est, ouais. Oui. Vous savez, ces couleurs-là, c'est vraiment la façon dont la lumière frappe sur justement ce qui peut colorer. Quoi. La couleur n'existe pas, c'est la lumière qui est
dessus.
C'est la même chose que sur les papillons. Quoi. Sur les oiseaux aussi. Ces abeilles sont relativement embêtantes, on les appelle charpentières, parce qu'elles vont faire des gros trous dans les bois, pourquoi pas les bois de charpente, pour pondre. Donc là, ça peut être embêtant.
Ça fait des dégâts, quoi.
Ça fait des dégâts, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des charpentes faites avec du châtaignier, parce que le châtaignier est putrécible et tellement tannique qu'il y a très très peu d'insectes qui s'y attaquent.
En tout cas, ce bourdon noir, c'est un bourdon noir en définitive. On l'appelle le bourdon noir de Turquie, paraît-il. Est vraiment très très beau. Voilà, il est impressionnant, mais il est très très beau. Hein.
Et puis alors, c'est pareil. Celui-là, c'est évident qu'il ne va pas piquer. Quoi. Moi, j'ai envie de le prendre à la main.
Bon, bah, écoutez, prenez-le, mais je ne serai pas là. Autre chose.
Petite actualité à moi.
L'actualité,
Je voulais parler des Tardus.
Les Tardus granus, mais bien évidemment.
Le tardigrade. On rappelle ce que c'est.
Alors.
Hein? Alors pourquoi on va d'abord dire ce que c'est. On va dire pourquoi il y a une petite actualité là-dessus. C'est une petite bestiole qui peut faire, on va dire, pourquoi pas un millimètre. Hein? Ça a 8 pattes. C'est un petit gros.
C'est pas beau. Hein.
Avec un nez tout rond. C'est un personnage de dessin animé.
Ah oui, complet. Hein,
vous le voyez.
Complet.
Qui vit dans l'eau. Il y en a 1200 espèces de par le monde, donc il y en a un certain nombre d'espèces en Corse, à côté de vous, hein, peut-être. Là. Alors, où il est absolument fantastique, vous savez, il ressemble aux oursons qui sont vendus dans les confiseries. Vous voyez,
c'est ça. Oui, tout à fait.
On l'appelle l'ourson, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
On le retrouve partout. Il est en haut de l'Everest, il est au fond de l'océan. Il rentre dans des hyper-hibernations, c'est-à-dire qu'en remplaçant de l'eau dans leurs cellules par un sucre qu'ils génèrent, c'est une sorte d'antigel, ils peuvent aller jusqu'à moins 260.
Ah oui, quand même.
C'est-à-dire le zéro absolu. En même temps, ils sont capables de résister à des températures de 150 degrés. Ils sont capables pratiquement de vivre une éternité, puisqu'ils peuvent hiberner autant de longs.
Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'animal le plus indestructible au monde.
Voilà. Ils supportent l'absence d'eau et de nourriture pendant 10 ans. Ça, c'est inhumain, ça.
On pourrait pas.
Il résiste aux rayons X, à des pressions allant jusqu'à 1200 atmosphères. Il résiste au sel, au manque d'oxygène. Et René, là, on s'en est aperçu, après avoir passé 2000 ans dans la glace. comment on a c'est vu ça. Des gens faisaient des carottages quelque part au Groenland et ils sont aperçus qu'il y avait sous le microscope des bestioles qui vivaient, c'était des tardigrades. Alors l'actualité, c'est qu'il y a une sonde israélienne qui a voulu aller explorer la surface de la Lune, qui s'est un petit peu écrasée dessus, et il semblerait qu'il y ait un certain nombre de tardigrades qui étaient embarqués, qui vont être les premiers colons.
Qui vont être colonisés là-haut. Et oui, parce que quand on le regarde, Jean-Pierre, vous qui avez la curiosité d'aller sur Internet, aller voir les photos, oui. c'est un animal extraterrestre. Quand on le voit.
Ah oui, on dirait un ballon, truc.
Et d'ailleurs, si on est des fous de science-fiction, je suis persuadé qu'il y a des choses qui ressemblent comme ça qu'on voit dans les films de science-fiction. Je suis sûr et certain.
Tout à fait. Alors, dans l'actualité aussi, il y a eu un truc marrant, c'est qu'un botaniste anglais, et néanmoins de talent, a ouvert un herbier qui avait été constitué il y a 150 ans environ. Mmh. Il a pris un élément d'une des plantes qui était dedans pour le regarder sous le microscope. Donc il a hydraté un petit peu l'élément en question, oui. Et sous le microscope, ça s'est mis à gigoter. Bravo. Donc depuis 150 ans, il y avait un tardigrade qui était,
c'est fou, ça.
Qui était dans le même, qui était dans une feuille. Donc voilà, ça m'amusait d'en parler.
Mais non, mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a des animaux qui sont étonnants, quoi. Alors là pour conclure, on va parler bien sûr des grillons et des cigales.
Bah oui, parce que on a chanté tout l'été.
Oui. Hein.
Donc alors une question qu'on me pose souvent est que la différence, est-ce qu'on peut entendre une cigale chanter pendant la nuit? Allez, on va dire en gros jusqu'à minuit, on peut entendre grillon et cigale. Grillon, ils chantent très très peu pendant la journée. Hein. Mmh. La cigale, il faut qu'il y ait une température qui soit à environ de 25 degrés. C'est assez étonnant. La façon de chanter n'est pas la même. La cigale, elle, c'est plutôt des percussions. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est aussi casse-oreille, parce que le nombre de décibels qu'ils sont capables d'envoyer, c'est quelque chose de faramineux.
C'est violent. Hein.
C'est 106 décibels à 50 cm. C'est-à-dire un concert de rock. Quoi. C'est une scie circulaire. Ça peut
imaginons s'il y en a 5000. Quoi.
Oui, tout à fait. Alors, le grillon, lui, c'est beaucoup plus modulé, c'est plus stridulé. Le grillon, lui, fait des sons en se frottant les pattes sur les élytres.
D'accord. Alors, vous faites bien le grillon.
Oui, le grillon, c'est le cri-cri de notre enfance, si vous voulez. C'était Donc, ces deux animaux, d'ailleurs, qui sont totalement inoffensifs. La cigale, il y a beaucoup d'endroits, c'est assez étonnant, où il n'y en a pas en Corse. Et puis, vous passez un virage, vous changez de paysage, et il y en a. Des explications, une en tout cas, c'est que la cigale a une vie larvaire extrêmement longue, 3 ans. Donc, s'il y a eu un incendie, les larves qui sont dans le sol ont peut-être été grillées. Il y a également le fait que certains endroits, vivre dans le sol en Corse, c'est difficile parce qu'il n'y en a pas, c'est directement sur la pierre. Il n'y a quasiment pas d'humus, justement, du fait qu'il y a eu un incendie qui est passé. Monsieur de La Fontaine, que je salue au passage.
La cigale et la fourmi.
Voilà, merveilleux littérateur et autres. Mmh. Un type de culot d'ailleurs. Moi, je m'amuse toujours à citer quand je suis en retard. Maintenant, je me prends pour La Fontaine qui avait rendez-vous avec le roi Louis XIV, dont il espérait beaucoup. Et Louis XIV lui dit : mais vous êtes en retard, La Fontaine. Et La Fontaine n'a pas pu s'empêcher de dire : pardonnez-moi, sire, mais j'étais à l'enterrement d'une fourmi.
Oh, c'est joli. C'est mimi.
La fourmi est plus importante que toi, monsieur.
C'est clair.
Donc, est-ce
qu'ils se baladent ou est-ce qu'elle reste là, elle bouge pas, elle fait leur petit.
Non, elle bouge pas parce que elle est sur son arbre, elle va vivre, elle est au mieux un mois, son état de chanteuse, et elle ne va pas passer l'hiver, justement, dans des plaises à Aesop et à La Fontaine. Et donc, vie larvaire pendant 3 ans chez nous. Vie larvaire, certains autres cigales, comme tout est plus grand là-bas, aux États-Unis, je ne sais plus où, dans le Michigan ou un truc comme ça, c'est 17 ans la vie larvaire. Donc, c'est tellement long que ça a eu le temps de se synchroniser. Donc, il y a des cigales qui apparaissent tous les 17 ans. Et là, ça fait une bouillie énorme, quoi.
Voilà donc pour la cigale et le grillon, vous vouliez le savoir, et bien vous l'avez écouté et Jean-Pierre vous a servi tout ça sur un plateau. Jean-Pierre, on va se retrouver la semaine prochaine avec d'autres aventures naturelles, bien sûr. C'est ça ?
Voilà, exactement.
On se sépare avec
en route pour de nouvelles aventures.
Voilà, on va se séparer avec une chanson que nous avons dédiée à nos épouses. You are beautiful, James Blunt. Oh. Au revoir, bon Jean-Pierre.
Life is brilliant. is pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked. She thought up that I should be.